Europe 1.
Heures, sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, autour de trois personnages qui avaient un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir un jour sombré dans la folie. Phénomène terrible dont j'ai personnellement été ici même, le témoin impuissant. Je ne le souhaite à personne. C'est dramatique de voir deux collègues, jadis à peu près sains d'esprit, sombrer de concert dans la folie.
Vlou, vlou, vlou.
Vlou, 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 vlou. Ah non, faut dire ça de façon un peu plus virile.
Vlou, vlou.
Oui, c'est très bien.
Vlou, vlou, vlou.
Bravo, c'est mieux.
Bonjour Stéphane Bern et Clémentine, puisque c'est vous qu'on entendait dans cet extrait. Ça va mieux? Vous êtes
oui,
bien aujourd'hui Stéphane?
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous bien. Êtes taquin, mais vous allez oui. voir à quel degré nos personnages du jour ont sombré dans la folie. Reviens. Ils sont devenus fous, c'est notre thème aujourd'hui. On revient en arrière avec le roi Charles VI, affublé du titre de roi bien-aimé, puis celui de roi folle. Oui, complètement folle, enfin fou, vous verrez. Et puis je vous parlerai de l'artiste peintre Séraphine de Senlis, un destin fou, autant qu'elle. Ou l'histoire d'une vieille femme de ménage folle qui va devenir l'une des plus grandes artistes du XXe siècle. De votre côté, Mathieu, vous nous retracerez la carrière en dents de scie d'un acteur hollywoodien promis un grand avenir avant qu'il ne pète lui aussi quelque peu les plombs.
Oui, quelque peu, voilà Stéphane, un bel euphémisme pour décrire les comportements récents de Shia LaBeouf, ex-star de blockbuster type Transformers, qui se distingue désormais plus par ses frasques que par ses films. Drogue, accusations de violence et de harcèlement. Lors d'un tournage avec Brad Pitt, il a même cessé totalement de se laver et s'est arraché une dent avec une pince pour plus coller à son personnage. Aujourd'hui, son agent l'a largué, il est interné en psychiatrie. Donc oui, Shia LaBeouf est un garçon qui a quelque peu pété les plombs, comme vous dites.
Shia LaBeouf.
Il s'appelle Shia, oui.
C'est un prénom masculin.
C'est un prénom masculin, vous allez voir pourquoi il s'appelle Shia. Il y a toute une histoire aussi.
Ah, oui.
Il avait des prédispositions. Il y aura des vannes de ce calibre-là. Effectivement, il y en aura même deux que vous pourrez repérer à l'aide d'une cymbale dans ma chronique.
Eh bien, eux, en revanche, mon cher Mathieu, ils sont en pleine possession de leurs moyens.
Et quels moyens, Stéphane ?
Comme chaque jour, elles nous entraînent dans l'intimité des grandes de ce monde. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, messieurs. Et
bonjour,
oui,
Clémentine.
Et aujourd'hui, vous ne croyez pas si bien dire, car ma chronique sera, historico-sado-maso-caliente. Ah. Parce que je vais vous parler du fouet et de la fessée. Oui, le fouet fut jadis très en vogue dans les familles, les écoles, les prisons, les alcôves. Et j'évoquerai pour vous, au passage, la hurissante pratique de la fessée patriotique sous la Révolution.
Que quoi ? La fessée patriotique ?
Eh oui, un truc qu'on ferait bien de remettre en vogue.
La fessée est interdite.
Mais patriotique, c'est quand même autre chose.
Dans un cadre érotique ou pas, ça peut être...
Et tout
La fessée érotico-patriotique.
Alors, vous savez qu'avec David Cassel-Lopez, nous revenons aux origines d'une invention, d'une création, d'un objet de notre quotidien.
Oui.
Alors aujourd'hui, c'est très mystérieux.
Vous n'avez même pas dû comprendre peut-être le titre. C'est ces entreprises qui ont un nom latino-grec. Vous voyez,
Hermès.
Fortunéo.
Oh, j'adore.
Fortunéo, Quo Vadis, Navigo.
Notez que vous citez Fortunéo, lui il cite Hermès. Hein.
Oui.
Chacun attend quelque chose de différent de
Exactement.
Et c'est un dieu grec, mais l'hôtel Mercure.
Oui, c'est vrai. Mais ça c'est directement, il y a une latinisation des mots, vous voyez. Le Navigo, Lactalis.
C'est vrai, mais pourquoi?
Mais oui, et ben voilà, on va voir ça.
Mais voilà, vous répondez à cette question qu'on s'est jamais posée.
Exactement.
C'est fou. Olivier Pouls est avec nous lui aussi, il nous entraîne chaque jour aux origines d'un plat, d'une recette et parfois même d'un ingrédient.
Bah là, on va se demander depuis quand buvons-nous du café? D'où vient-il? Quelle est cette tradition de... Vous en voulez peut-être d'ailleurs un petit café
si tu pouvais. Mais l'après-midi, c'est pas toujours raisonnable parce qu'après on dort pas le soir.
Papy Mougeot.
À 16h, on peut prendre un petit café encore, Stéphane, pour être en forme.
Ah, il paraît qu'on
Contrairement à ce qu'on pense, l'effet de la caféine dans le corps vient plusieurs heures après avoir consommé le café. Donc il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que si vous buvez un petit café maintenant pour vous donner du tonis dans 10 minutes, ça marche pas. C'est que l'effet placebo. Le vrai effet de la caféine, c'est plus tard.
Fonctionne qu'à l'effet placebo, ça marche merveilleusement sur moi. Enfin, si la folie est parfois génétique, elle peut aussi survenir du jour au lendemain suite à un événement traumatique, comme par exemple un quiz qui rendrait fou. Bern to be alive, le quiz qui rend ma boule Stéphane Bern, c'est tous les jours vers 5h-10.
Vlou,
Stéphane. Mais reprenons-nous, l'émission ne fait que commencer. Il est l'heure d'évoquer notre premier personnage de l'histoire qui est devenu fou. Stéphane Bern nous raconte Charles VI.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Venez avec moi, Mathieu, dans la forêt du Mans, cette belle journée du 5 août 1392.
J'ai un petit peu peur, c'est là, je suis obligé de venir.
Restons à l'ombre, ma chaîne. Déjà parce qu'il fait une chaleur à se trouver mal, mais aussi parce que la scène va dégénérer. Un jeune homme de 23 ans, à la chevelure dorée, galope nerveusement à travers une clairière. Des soldats à ses côtés. C'est le roi de France, Charles VI. Monté sur le trône en 1380, voilà déjà 4 ans qu'il a décidé de régner seul, congédiant ses oncles, les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry. Bien décidé à se la jouer héros conquérant, Charles VI mène une campagne contre Pierre de Cran. Ce vassal du duc de Bretagne a tenté quelques mois plus tôt de faire assassiner Olivier de Clisson, connétable de France et ami personnel du roi. Au moment de rejoindre la plaine, un monstre surgit de nulle part. Il fait peur à voir et doit sûrement venir d'une léproserie voisine, ce lieu qui réunissait les lépreux. Le voilà qui s'adresse au roi. Il faut que je parle à la façon d'autrefois.
Ah oui, il faut que tu parles comme ça.
Ne passe plus outre, noble roi, parce qu'on te va trahir. De quoi donner des sueurs froides à son interlocuteur. Charles VI poursuit sa route lorsqu'un page, assommé de fatigue et de chaleur, laisse tomber sa lance qui vient frapper le casque de son voisin. Ni une ni deux, le roi, dans un sursaut, tranche en deux le page maladroit avec son épée. Dans un état de fureur et de frénésie, il taille en pièces 4 autres cavaliers en hurlant « On va me livrer à mes ennemis !» On ne peut pas se défendre car cela voudrait dire se battre contre le roi.
Ils se sont laissés assassiner.
Tout bonnement impensable, Mathieu, je sais. Au bout d'une heure d'hystérie, Charles VI brise involontairement son arme. Un chevalier en profite pour le maîtriser. Immobilisé par ses hommes, le roi est ligoté sur un chariot et rapatrié. Pendant 3 jours, il est dans un coma profond. On le croit mort, mais Charles reprend connaissance, se confesse et demande pardon. Quelques semaines de repos et le revoilà de nouveau sur pied. Mais a-t-il toute sa tête? Dans le royaume, la nouvelle se répand. Le roi est bredin, le roi est folle. Un médecin est appelé à la cour, un certain Guillaume de Hercigny. Il évoque une faiblesse de tête due à un épanchement de bile noire. Au Moyen-Âge, la médecine n'a pas tellement évolué depuis l'Antiquité. La théorie des humeurs d'Hippocrate est toujours d'actualité et les maladies mentales sont attribuées à un excès de bile. Le docteur Hercigny préconise aussi du repos, du grand air et interdit toute contradiction. Il faut entrer dans la folie du roi. Sans le savoir, il jette les bases de la psychiatrie moderne. Le roi tient trop de la moiteur de sa mère, analyse-t-il. Charles VI a-t-il hérité de la folie de sa mère, Jeanne de Bourbon, vous avez connu sous son surnom de Jeanne la folle. Si on commence à se pencher du côté de la génétique, la consanguinité peut aussi être tenue pour responsable. Depuis Saint-Louis, tous les mariages se font dans la même famille. Le 28 janvier 1393, Charles VI fait montre une fois de plus de sa folie. Un bal est donné à l'hôtel Saint-Paul pour célébrer le mariage d'une des dames de compagnie de la reine Isabeau de Bavière. Les vieux oncles vont se coucher et laissent les jeunes s'amuser, alors que la fête bat son plein, des cris d'animaux retentissent. Le roi et 5 nobles compagnons font irruption dans la salle, déguisés en sauvages. Ils sont enduits de poids et de poils d'animaux et attachés les uns aux autres. Une bien funeste idée, car une flamèche les touche et pouf, tout le monde s'embrase. Le religieux de Saint-Denis décrit avec horreur le drame qui s'ensuit. La flamme dévorante s'élevait jusqu'au plafond. La poêle liquéfiée ruisselait sur leur corps et pénétrait dans leur chair. Ils furent pendant près d'une demi-heure en proie à ces souffrances. En essayant d'éteindre le feu, en cherchant à déchirer leurs vêtements, ils se brûlèrent et se calcinèrent les mains. Le feu consuma aussi les parties inférieures de leur corps et leurs membres virils qui tombaient par lambeaux inondèrent de sang le plancher de la salle.
Ça, ça vous plaît, Stéphane, là, parce que vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais il faut nous suivre en vidéo pour ça. C'est que quand ça touche aux parties intimes, aux parties inférieures, comme vous l'avez gentiment dit, tout de suite, il y a un sourire. Ça me fait penser au sourire de Nicholson quand il joue le Joker dans Batman. C'est ce sourire terrible que vous avez dans ces moments-là.
Non, simplement, je suis dans le personnage.
Ah, vous y êtes bien.
Je suis dans le religieux de Saint-Denis. Heureusement pour le roi, une jeune tante, par alliance, l'enveloppe de sa traîne pour étouffer le feu. Était-ce là encore une crise de démence? Pas sûr. En voir la réaction de Charles VI, une fois le feu éteint, il s'enquiert de l'état de ses amis et rassure son épouse enceinte qui a fait un malaise à la vue de cette scène. Un autre épisode qui se déroule au mois de juin 1393 à Abbeville confirme bien son état de santé. Charles VI perd complètement contact avec la réalité. Hyperactif, il se met à tout casser. Qui sont ces fous autour de lui qui le prennent pour le roi? N'importe quoi. Il s'appelle Georges, nom de Dieu. Dans cette crise identitaire, il ne reconnaît ni sa femme, ni ses enfants.
Là, c'est quand même là qu'il finit par perdre toute crédibilité, non?
Non. Charles est toujours surnommé le roi bien-aimé. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on l'appellera Charles le Fou. Pour le peuple, c'est une grande souffrance. La maladie mentale est un châtiment du ciel, une punition des péchés de ses sujets. Le roi est vu comme une victime qui cristallise sur sa personne la colère de Dieu. Des dizaines de médecins sont consultés, sorciers et charlatans défilent aussi à son chevet. Potions, invocations du diable, tout est fait pour lever le maléfice. Le sixième enfant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière est prénommé Marie. La petite est conduite au monastère de Poissy dès ses 4 ans pour y consacrer sa vie. Des messes et processions sont organisées partout dans le royaume. Les juifs sont expulsés, ces hérétiques doivent sûrement attirer le malheur sur le royaume. Des ordonnances officielles interdisent les péchés les plus communs, comme la prostitution, le blasphème, le jeu d'argent. La rigueur est de retour pour expier les péchés des Français. Mais rien n'y fait, Mathieu. Rien ne parvient à apaiser la colère de Dieu et à conjurer le mauvais sort. Et vous allez voir que les crises de démence du roi Charles VI ne font que commencer. Sur les 42 années de règne, on compte 30 ans de maladie. Le pauvre Charles VI est victime d'environ 50 de ces crises qui peuvent durer quelques semaines ou plusieurs mois. Aussi s'habitue-t-on à le voir traverser son palais en courant ou danser d'une façon burlesque et inconvenante. Comme Charles VI refuse de se changer, de se laver, la vermine prolifère sur son corps. Le religieux de Saint-Denis en témoigne. Il y avait 5 mois qu'il se refusait à tout cela et déjà la crasse produite par des sueurs fétides avait fait venir des pustules sur plusieurs parties de son corps. Il était tout rongé de vermine et de poux. Un jour, Charles VI interdit à quiconque de le toucher et demande à ce qu'on lui barde les membres d'attelle de fer. Il a peur de se briser, étant convaincu que ses os sont intégralement faits de verre. Entre ces crises de violence viennent des crises de prostration. Renfermé sur lui-même, Charles VI ne parle plus. On dit que le roi est absent. Mais dès qu'il se remet de ses accès de maladie, le roi reprend son rôle, assumant pleinement et efficacement ses fonctions. Imposant sa volonté, il revient parfois sur des décisions importantes prises par le conseil de régence lorsqu'il était en proie à sa démence. Quand il n'élabore pas des stratégies militaires, il tire à l'arbalète, s'adonne aux jeux de paume, joue aux échecs et aux cartes, ce qui témoigne du maintien de ses capacités physiques et cognitives. Charles VI était donc certainement bipolaire et non schizophrène, comme cela a souvent été dit. Et il a conscience de sa maladie. En mars 1402, il fait publier une ordonnance octroyant les pleins pouvoirs à son épouse en cas d'incapacité de sa part. Ce gouvernement de Nancy apporte son lot de problèmes, comme l'assassinat du frère du roi Louis d'Orléans qui entraîne la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Les Anglais en profitent pour relancer la guerre de Cent Ans. Après le désastre d'Azincourt en 1415, Charles VI bannit son fils, le futur Charles VII, et fait d'Henri V d'Angleterre son héritier en signant le honteux traité de Troyes. Ce qui fait que jusqu'en 1802, les rois d'Angleterre utiliseront le titre de roi de France. Ah, si ce bon Charles VI n'avait pas sombré dans la folie, le destin de l'Europe aurait été tout autre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Charles VI le fou, nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivain Laurent Decaux. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane.
Oui, alors, dans la famille Decaux, je demande le fils. Bonjour Laurent. Vous êtes le fils de celui qui nous a donné à tous envie de nous intéresser à l'histoire, Alain Decaux. Et vous êtes surtout l'auteur du roman historique Le Roi Fol, publié chez Ixo Éditions. Le Roi Fol, c'est, vous l'aurez compris, le roi fou. C'est Charles VI. Ce qui est fascinant, Laurent, dans le cas de Charles VI, à l'évidence, c'est qu'on peut à la fois combiner les plus hautes responsabilités politiques tout en étant fou. Ce cocktail est explosif, pouvoir, folie. C'est ça qui vous a intéressé en tant qu'écrivain ?
Évidemment, ça m'a intéressé, mais mon intérêt pour Charles VI remonte à un peu plus loin dans sa vie, pas à sa folie, mais à sa jeunesse, parce que j'avais déjà évoqué ce personnage dans mon premier roman, qui s'appelait Le Seigneur de Charny. J'avais déjà évoqué Charles VI, mais en tant qu'adolescent, en fait, qui venait d'accéder au trône et qui allait chez des seigneurs en Champagne, tout simplement pour prier parmi des pèlerins une relique importante, très importante d'ailleurs, puisqu'il s'agissait du Saint-Suaire, le fameux Saint-Suaire de Turin. Et donc, j'avais esquissé le portrait de Charles VI, mais en tant qu'adolescent, jeune roi, qui vient d'arriver au pouvoir dans des circonstances assez terribles, à l'âge de 11 ans, puisque son père est mort de chagrin, quelques mois après le décès de sa mère dont vous avez parlé. Et, disent les chroniqueurs en tout cas, Charles V en aurait créé un tel chagrin qu'il en serait mort, vraiment, voilà, de neurasthénie, faisant le deuil de son épouse. Et Charles VI se retrouve de manière complètement inattendue, non préparée, à la tête du royaume de France. Il n'est pas encore majeur, donc c'est ses oncles qui tiennent les rênes du pouvoir à sa place. Et voilà, c'est un homme qui vit avec une faille intérieure. Vous avez parlé de consanguinité. Mais au début de son règne, en tout cas, tout commence de la meilleure des manières, si bien que son peuple l'appelle Charles le Bien-Aimé.
Mais vous qui l'avez suivi depuis l'adolescence, il a eu ces épisodes de folie dès l'enfance ou dès l'adolescence, ou c'est venu plus tard?
En réalité, moi, je le décris dans mon premier roman comme un adolescent, de son temps, qui aspire, qui lit les récits de voyage de Marco Polo, les récits chevaleresques, les romans courtois, évidemment, qui se rêve chevalier, preux parmi des preux.
Un type normal, quoi.
Voilà, un type, enfin, un roi
normal,
un roi de son temps, mais quand même quelque peu anachronique, parce que les rois de la fin du XIVe siècle, ce ne sont pas les rois comme Saint Louis ou du XIIe siècle comme Philippe Auguste. Ce ne sont pas des rois qui veulent faire la croisade, ce sont plutôt des gestionnaires. Or, je pense que Charles VI, il était plutôt, lui, destiné à être un chevalier un peu de l'ancien temps. Et il ne parvient pas à le faire, finalement. Lui, il est plongé dans un monde qui ne lui correspond pas totalement, qui est en évolution, qui est en changement. Et moi, ce qui m'a plu, c'est surtout ce contexte incroyable, la fin du XIVe siècle, qui est le XIVe siècle, c'est quand même le siècle des grandes calamités, quoi. Enfin, on n'a pas connu de siècle semblable à celui-là. La peste noire, la guerre de Cent Ans, qui à l'époque est une guerre qui dure depuis 40 ans, et puis le schisme d'Occident, c'est-à-dire le fait que les l'Église explose, il y a un pape à Rome, un antipape en Avignon, ou inversement. Et puis, finalement, le clou du spectacle, c'est cette folie, extravagante et spectaculaire du roi de France.
Non, j'avais posé une question peut-être un peu naïve, mais il n'y avait pas de procédure pour destituer un roi qui était fou, finalement, s'en accommodait.
Il n'y a pas d'impeachment.
Il n'y a pas d'impeachment, Stéphane. Ça, c'est
Écoutez, non, on est roi à partir du moment du sacre.
Il faut rappeler qu'il y avait eu de régence quand
le
même.
Le sceptre, mais il y avait eu une régence au moment de sa minorité, puisque la majorité avait été descendue à 15 ans sous Charles VI par son père Charles V, sentant venir sa mort. Mais Charles VI, en accédant au pouvoir, avait 11 ou 12 ans. Donc il y a eu une régence de ses oncles, finalement, qui étaient aussi à leur manière des tyrans. Philippe le Hardi, Philippe de Bourgogne et Jean de Berry, qui est assez connu également.
Votre ouvrage est un ouvrage de romancier, c'est aussi celui d'un enquêteur. Ça a été compliqué pour vous, Laurent, de démêler le vrai du faux, sur quelle base historique ou médicale vous avez pu vous baser pour faire ce roman?
Alors, documentation médicale, pas du tout, parce qu'il n'y en a pas. Vous avez parlé du médecin, du maître en médecine du roi, qui s'appelait Guillaume de Harcigny, qui avait déjà 80 ans à l'époque, donc qui n'écrivait plus, mais qui a certainement écrit des traités d'anatomie, notamment un bréviaire d'anatomie qui s'est perdu depuis, malheureusement. Donc voilà, sur l'historique médical, on a à peu près rien. Tout ce qu'on a, c'est ces fameuses chroniques. Vous avez parlé de Froissart, il y a aussi Juvénal des Ursins, il y a le religieux de Saint-Denis, Michel Pintois, mais c'est souvent de la géographie, c'est-à-dire qu'ils sont au service des rois. Donc voilà, il tire du règne que des choses éminemment positives. Mais après, sur la documentation, j'ai pris ces chroniques, mais je les ai évidemment réinterprétées, et je me suis servi surtout... je suis romancier et non pas historien. Donc je me suis surtout servi de la légende noire qu'il y a autour de Charles VI, et notamment de son épouse Isabeau, dont on accusait à l'époque de tous les vices, et dont même le marquis de Sade a fait un récit romanesque assez enlevé. Donc voilà, je suis à cheval sur la documentation assez classique, finalement, les chroniques revues par les historiens, les archives, et puis évidemment la légende noire.
Alors, complot, trahison, joute sanglante, adultère. Laurent, vous faites de la vie de Charles VI une saga trépidante. Il y a un peu un côté les rois maudits assumé dans ce livre.
Bah écoutez, moi je suis venu à l'histoire non pas par les récits d'historiens, mais par les romans historiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que je fais du roman historique. D'abord, ça, j'ai commencé par les feuilletonistes, évidemment, quand j'étais gosse. On pense à Dumas, bien entendu, à Paul Féval, pour les anglo-saxons, à Stevenson ou Walter Scott. Et puis après, au moment de l'adolescence et du jeune âge adulte, c'est plutôt les romanciers du XXe siècle qui m'ont intéressé. Yours Sonnard, Robert Merle, et puis évidemment Maurice Druon, qui pour moi reste la référence absolue du roman historique médiéval. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur, parce que j'aime bien parler des Rois Maudits et de son succès incommensurable à l'époque dans les années 50 et 60. Enfin, il faut savoir que Maurice Druon a été fait l'équivalent de grand chevalier ou grand officier de la Légion d'honneur un peu partout en Russie, en Espagne, dans la plupart des pays, mais était mal traduit en anglais. Mais le succès incroyable de Game of Thrones, la réhabilité, parce que l'auteur, Gérard Martin de Game of Thrones, se revendique de Maurice Druon. Si bien qu'après le succès de Game of Thrones est venu, retraduit, le succès des Rois Maudits aux États-Unis, qui a été un grand best-seller des années 2010. Donc voilà, c'est le modèle de Gérard Martin qui est l'auteur de Game of Thrones. Moi, à titre plus modeste, c'est évidemment, pour moi, le modèle absolu de ce qu'on appelle le roman choral historique, c'est-à-dire roman un peu à tiroir, à intrigue. Voilà.
On va pas faire du chronie, Laurent Decaux, mais ni on ne peut refaire l'histoire. Mais la folie de Charles VI a eu un coup politique énorme. C'est vrai que le destin de l'Europe et de la France en eût été changé si Charles VI n'avait pas été fou.
Oui, alors effectivement, on peut néanmoins faire de l'Uchronie.
Non, pourquoi faisons.
Écoutez, moi je suis romancier, donc l'Uchronie c'est un genre romanesque.
Nous, on n'ose pas.
Mais vous, Stéphane Bern, non.
On n'a pas le droit.
Je ne vous conseille pas. Cependant, oui, Charles VI, son règne personnel en 1388, il renvoie à ses oncles. Il rappelle les conseillers d'origine assez modeste de son père, que les oncles font appeler d'ailleurs et surnomment les marmousets, parce que les marmousets, c'était... c'est un mot d'argot de l'époque, c'était les petits singes qu'il y avait dans les marchés, qui montaient un peu partout et qui souvent chapardaient la piécette à la ménagère ou des choses comme ça pour aller donner la rançon à l'aigrefin qui était posté un peu plus loin. Donc ils étaient surnommés les marmoussés, mais c'était des réformistes. Et d'ailleurs, Charles VI et ses ministres, Olivier de Clisson, le connétable, Jean de Montaigu, le chancelier et d'autres, bureau de la rivière, entreprennent des grandes réformes, modernisent la fonction publique, essayent d'élargir les parlements aux classes plus populaires, essaye de mettre fin à la corruption qui gangrénait la France et surtout éloigne les oncles qui avaient mis les finances de l'État en grand danger. Donc voilà, pendant les 3-4 années du début de son règne personnel, de 1388 à 1391, tout se passe de la meilleure des façons. C'est le début d'un très grand règne. Et ça,
Et ça, vous le montrez très bien. Vous montrez aussi une autre chose, Laurent, dans votre roman, c'est que c'est vrai que les catastrophes dont vous parliez de ce 14e siècle ont fait que la population a pensé que c'était un châtiment divin qui s'abattait sur eux et qu'à travers le roi qui est le lieutenant du Christ sur terre, mais c'était les Français qui étaient punis.
Voilà, alors effectivement, il faut se remettre complètement dans l'époque, dans ce 14e siècle, qui est à la différence du 13e siècle. Le 13e siècle, c'est un peu le siècle de la Renaissance médiévale. Beaucoup de gens l'ont appelé comme ça, c'est les premières lumières médiévales. Les Grecs ont été retraduits, on a redécouvert Aristote, Platon, c'est la scolastique, ce qu'on a, Saint Thomas d'Aquin, le mélange de la raison et de la théologie. Mais le 14e siècle, pas du tout. Le 14e siècle, on a l'impression qu'on est en grand déclin, qu'on a raté les croisades, les chevaliers sont ruinés, et puis il y a eu la peste noire. En France, c'est 6 millions de morts pour 18 millions d'habitants. À côté, le ou la Covid, c'est pas tout à fait la même chose.
Non, c'est la moitié de la population française.
C'est presque la moitié de la population française selon les sources. C'est une catastrophe considérable, mais dans le monde entier. C'est un tiers de la population mondiale. Donc à partir de là, la foi, le sacré prend un aspect beaucoup plus noir, beaucoup plus morbide. Par exemple, les Christs qui sont représentés dans toutes les églises, ils sont représentés de manière beaucoup plus sanglante, de manière beaucoup plus réaliste. Même les gisants, par exemple, vous voyez les gisants, les sculptures des morts sur les tombeaux, changent d'apparence. On les appelle à cette époque les transis. C'est-à-dire qu'on ne représente plus les morts en majesté comme si c'était des vivants endormis, mais on les représente à l'état de cadavres putréfiés. Et c'est d'ailleurs le cas du gisant de Guillaume de Arsigny qui est représenté vraiment dans une forme épouvantable. Bon, il avait 83 ans, ce qui est un âge très avancé pour l'époque quand il est mort, mais quand on voit son gisant, c'est vraiment frappant et assez effrayant.
Ce que j'ai pas très bien compris dans votre récit, Stéphane, c'est que la folie du roi, ça, quelque part, ça le rapprochait du peuple. Le peuple ne s'inquiétait pas du fait que le roi soit fou. Pour eux, c'était un signe.
Alors, d'abord, le peuple, à vrai dire, n'a pas cru à la folie.
Ah, voilà.
C'est-à-dire que, voilà, la folie, c'était pas considéré comme une maladie. Effectivement, vous l'avez bien dit, c'était souvent la conséquence de quelque chose qui se passait mal. Le roi, c'est l'incarnation du peuple. La souveraineté s'incarne dans le roi qui tire sa légitimité de Dieu. Et donc, ça ne pouvait être qu'une réponse, non pas forcément à Charles VI, mais à son gouvernement, qui était empêché par la volonté de coup d'État des oncles, par, le schisme qui couper l'Église en deux, par cette guerre interminable avec l'Angleterre. Donc ça va être une réponse à ça. Et comme je vous le disais, on croit d'abord que Charles VI a été envoûté, a été ensorcelé. Mais c'est de là, d'ailleurs, qu'est tirée la légende noire d'Isabeau de Bavière, parce qu'elle était à moitié allemande, à moitié Visconti, à moitié milanaise. Donc forcément, elle était chargée de rumeurs et d'empoisonneuses, etc. Et on pensait que c'était elle qui avait fait du roi, voilà, se dégénérer, en quelque sorte.
En tout cas, on sent que vous avez beaucoup de sympathie pour ce roi fou.
Alors, je sais pas si j'ai de la sympathie. En tout cas, je l'admire. Ça, c'est sûr. J'aimerais qu'on le connaisse un peu mieux. C'est vrai qu'il est un peu passé à la trappe de l'histoire. Mmh. Et pourtant, il a régné plus de 40 ans. C'est le 8e règne le plus long de l'histoire de France. Et c'est un roi qui est tenace et qui se bat. Il se bat contre ses oncles, d'abord. Ensuite, quand ceux-ci reviennent au pouvoir et éloignent les marmousets, dans ces rares moments d'éclaircie, de lucidité, il rappelle les marmousets, mais à chaque fois, bon, il retombe dans la folie. Donc, du coup, les oncles reprennent le pouvoir, se font la guerre au conseil. Et comme vous l'avez dit, voilà, sans cette crise de démence, c'est évidemment de l'Uchronie et de la spéculation, mais la France s'en serait beaucoup mieux sortie. Parce que là, de la folie de Charles VI, en découle 40 ans de guerre civile. Et ça, on ne le sait pas. Les Anglais débarquent en 1420, vers la mort de Charles VI, et surtout prennent Paris. Un Anglais est couronné à Notre-Dame de Paris en 1431, le jeune Henri VI qui a 10 ans. Voilà, ça, beaucoup de Français l'ignorent, les Anglais le savent évidemment, mais beaucoup de Français l'ignorent. Et tout ça découle
de
la folie du roi Charles VI.
Et bien, merci beaucoup Laurent Decaux, je rappelle le titre de votre roman historique, Le Roi Fol, trahi au bord de la folie, l'incroyable roman de Charles VI aux éditions XO.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte tout haut des histoires qui ne se racontent parfois qu'à voix basse. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, vous sortez le fouet. Hein. Je parle pas évidemment du ustensile de cuisine. Ça, je laisse à Olivier Pouls. Vous, c'est le... C'est le fouet de
dans
Martinet,
un cadre récréatif, dirons-nous.
Récréatif.
Entre adultes, consentants,
bah oui, ça dépend, hein, parce que la pédoplégie, c'est-à-dire la pédagogie par le fouet. La pédoplégie, c'est le terme.
Tombé en désuétude. Hein.
À tous égards, oui, sauf peut-être dans l'alcôve, justement. En tout cas, ça ne date pas d'hier. Et dans une vie de Grégoire le Grand, un pape contemporain de Clovis, donc c'est le 6e siècle, si vous voulez, mais cette vie de Grégoire le Grand est écrite au 9e, il est raconté. Tenez-vous bien qu'à cette époque,
on se tient bien.
On montrait encore à Rome le fouet dont le pape se servait sur ses enfants de cœur. Non, mais attendez, il y a quand même de quoi s'accrocher au bastingage. Vous imaginez le pape Grégoire le Grand en train de taper les enfants de cœur de la chapelle Sixtine,
c'est
qui n'existe pas encore.
Surtout
d'ailleurs.
C'est un saint homme, Grégoire le Grand.
Ben oui, en plus, c'est vous dire, si vous voulez, c'était une chose très courante. Alors, je parle ici de fouet, mais on utilise plus souvent le mot verge. Je rappelle au passage, pour éviter les présenteries graveleuses de mes petits camarades que je vois ricaner, que ce mot vient du latin virga, virgae, branche verte, oui, tige, baguette, qui désigne la petite baguette longue et flexible avec laquelle on fouettait les enfants. Et plus près de nous que Grégoire le Grand, eh bien, les 17e et 18e siècles ont été par excellence les siècles de la pédoplégie. Les enfants sont fouettés à la maison comme à l'école. La verge simple, le bâton, le martinet ou le brin d'osier devinrent les intermédiaires réglementaires entre la main du maître d'école et les écoliers qui étaient littéralement menés à la baguette. C'est bien ça que cela veut dire. La verge ou la férule est le symbole même des fonctions magistrales. Il y a beaucoup d'œuvres peintes dans lesquelles on voit un maître et ses élèves et il a une baguette et vas-y, je te fouette. Alors on fouette aussi les enfants en famille, et ce, dans tous les milieux. Prenez la princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV. Elle aime passionnément son fils, hein, oui. Mais ça ne l'empêche pas de l'élever à la dure. Oui. Quand mon fils était petit, je ne lui ai jamais donné un soufflet. Mais je l'ai fouetté si vigoureusement avec des verges qu'il s'en souvient encore. Et le premier dauphin, le fils même de Louis XIV, je vous l'avais déjà raconté, était battu comme plâtre par son précepteur Montausier. Ça suffit à l'écœurer complètement. Il ne voulait plus rien savoir, le pauvre enfant. Alors, après les enfants, les soldats, bien sûr, connaissent les châtiments corporels et la fustigation de fustiger, battre. Hein. On aura appris deux mots aujourd'hui, la pédoplégie, la fustigation, c'est bien joli. Et c'est aussi la règle, naturellement, dans les prisons. Dès leur arrivée dans l'établissement, les nouveaux détenus sont fouettés. On appelle ça la bienvenue. Alors Beaumarchais, l'auteur dramatique, quand il est envoyé à Saint-Lazare parce qu'il avait traité le censeur royal qui voulait pas que soit joué
le mariage de
Figaro. Il l'avait traité de punaise, donc il a été envoyé à Saint-Lazare et il y reçoit la bienvenue. Hein, donc ses fesses sont dues s'en souvenir, son dos plutôt, parce qu'en fait c'est plutôt sur le dos.
Mais on tapait sur le bas du dos.
C'est plutôt sur le dos. Et puis il y a la fessée qui vous intéresse le plus naturellement, c'est-à-dire la fessée érotique, célébrée dans tous les romans de la période, et puis Diderot et Rousseau, qui doivent leurs premiers émois à une bonne fessée. Hein. On connaît la citation de Rousseau sur la question. Et c'est bien sûr dans les œuvres grivoises du marquis de Sade que la fessée brutale et libidineuse connaît son apothéose. Dans Justine ou les malheurs de la vertu, un moine abuse de son autorité en assénant une déculottée bien sentie à la jeune innocente. Alors, en revanche, à la Révolution, la fessée n'est plus du tout érotique. De nombreuses femmes, laïques ou religieuses, vont être fessées publiquement. Et les caricaturistes révolutionnaires s'en donnent à cœur joie, parce qu'évidemment, ça leur permet de représenter des derrières féminins, dénudés, corrigés. Donc, bien sûr, ça émoustille tout le monde. Ça commence le 10 juillet 89, sous les arcades du Palais Royal. C'est une aristocrate qui est allée galerie Montpensier. Elle est rentrée chez Monsieur Cursus. C'est celui, sa nièce va devenir Madame Tussaud à Londres. Donc, il expose des visages célèbres en cire. Donc, elle est là, cette dame, et elle crache sur le buste de Necker. Alors, aussitôt, elle est traînée hors du musée par des hommes qui relèvent sa robe et lui administrent une belle correction à main nue, sur fesse nue, puisqu'à cette époque, les femmes, vous le savez, ne portaient pas de culottes. Ensuite, deuxième vague de fessées sont des religieuses. Et elles sont fessées pour avoir refusé la constitution civile du clergé. C'est aussi les dames de la halle qui s'en prennent à elles parce que certaines nonnes dans Paris fouettaient notamment les prostituées qu'elles recevaient chez elles. Donc on t'accueille, mais au passage tu te prends une bonne fessée. Donc on a conservé un document intitulé « Liste de toutes les sœurs et dévotes qui ont été fouettées par les dames du marché de Paris avec leur nom et un détail très véritable de toutes leurs aventures avec leur curé. » Bon, alors d'après ce texte, à Pâques 1791, il y eut 621 fesses fouettées.
Paire de fesses ou fesses individuelles ?
621 fesses fouettées, au total 319 culs et demi.
Ah voilà.
Attendu que la trésorière des Miramionnes n'avait qu'une seule fesse. Les Miramionnes, vous savez, Stéphane,
comment
c'est l'hôtel des Miramions.
Comment elle ne pouvait avoir qu'une seule fesse?
Oui, mais comment on peut avoir qu'une seule fesse?
Ça, c'est intrigant.
Alors ça, c'est un mystère.
Oh, bah ça, vous enquêterez.
Bon, de toute façon, les caricaturistes racontaient n'importe quoi, parce que le truc, c'est que tout ça, c'était un bon prétexte pour présenter des paires de fesses. Et puis, évidemment, la fessée républicaine la plus connue, c'était celle de Terwijn de Méricourt. Le 31 mai 93, elle a le malheur de prendre la défense de Brissot, qui est le chef de file des Girondins. Ça se passe dans le jardin des Tuileries. Mal lui en prend, des tricoteuses s'emparent d'elle, dévoilent son postérieur et lui infligent une fessée républicaine décrite par Michelet. Nue sous les risées de la foule, ils la fouettèrent comme un enfant. Ses prières, ses cris, ses hurlements de désespoir ne firent qu'augmenter les rires de cette foule cynique et cruelle. Marat intervient pour faire cesser cette fessée, mais cet épisode va faire basculer Terwijn de Méricourt dans la folie, pour ne pas dire la vésanie. Et elle passera 23 ans enfermée à la Salpêtrière, à s'arroser d'eau glacée. Voyez comme je rejoins subtilement l'air de rien, votre thématique du jour en termine. Non, avec Terwijn de Méricourt devenue complètement folle. Alors, Terwijn clôt tristement cette série de fessées qui n'avait de patriotique que le nom, car il est facile d'y voir surtout du voyeurisme avant la lettre. Alors, je vous ai quand même apporté une photo qu'on peut trouver sur Internet. C'est une assiette d'époque pré-révolutionnaire, une très jolie assiette, comme un moustier, si vous voulez, qui représente une fustigation. Alors, on voit une belle paire de fesses sur une assiette
en scène. J'étais en quête d'une idée cadeau pour Stéphane.
De rougir sous le fouet.
C'est idéal, ça sera merveilleux chez vous, Stéphane.
Ah, oui, oui.
Bravo.
Je sais pas ce qu'on va servir dessus sur cette assiette.
Il faudra faire très attention.
Rognons.
Un cœur d'artichaut.
Merci beaucoup, Clémentine.
Merci.
Vous restez avec nous pour une autre forme de fessée. On appelle ça le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Lorsqu'il donne des interviews, c'est la question qu'il redoute désormais. Comment expliquez-vous vos lamentables performances dans le quiz historique chaque après-midi sur Europe 1, Stéphane Bern ? À cette question, Stéphane rougit et répond un peu penaud.
Non, mais il faut oublier tout ça.
Et que faites-vous du devoir de mémoire ? Allons Stéphane, soyons sérieux, n'oublions aucune de vos 112 défaites en 128 émissions, car tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.
Vous mentez avec
moins
vos crédible. Statistiques.
Mais plus fort, jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question... Elle vous revient. Fin du XVIIIe siècle, c'est l'invention de la brosse à dents. On le doit à un Anglais, William Addis. Le plus fou, c'est qu'il a mis au point sa première brosse à dents alors qu'il était en prison. Vrai ou faux ?
Ça me dit quelque chose.
La brosse à dents, oui, j'espère que vous en utilisez au quotidien.
Non.
Ça serait mieux.
Non, une invention en prison.
C'est le nom, c'est le squash qui a été inventé en prison, je crois. Mais la brosse à dents, pour moi, c'était les Chinois qui en faisaient en poil de pas de sanglier, où c'est un peu dur.
Non, le poil fameux sanglier chinois.
Des soies, avec des soies de sanglier, je crois qu'on faisait les premières brosses à dents. Mais alors, sur le temps...
Je dirais oui, allez. Comme
c'est
ça.
Votre réponse.
Oui.
Vous avez...
Ne raisonnez jamais, Stéphane. Allez-y, franco, comme ça. À chaque fois, ça vous réussit.
Ça
vrai. 1770, William croupit en prison car il a provoqué une émeute. Il observe une personne utilisant un balai pour nettoyer le sol. À l'époque, on prenait un chiffon pour s'occuper de ses dents. Il a gardé de la cantine l'os d'un animal. Il a demandé de la soie qu'il a nouée en touffe dans des petits trous de l'os qu'il a scellé avec de la colle. La première brosse à dents moderne était née. Il a fait fortune. 200 ans plus tard, sa société produit toujours 70 millions de brosses à dents par an. Incroyable.
Extraordinaire, mais je serais quand même curieuse de savoir si elle n'existait pas sous une forme peut-être moins élaborée
en Chine. En Chine avec ses fameux poils
donc
de
là,
sanglier.
Il s'agit, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est la première brosse à dents moderne.
Moderne, exactement. Question numéro 2 pour vous, Clément. Fernando Po est l'un des premiers Européens à rejoindre la côte du Cameroun en 1472. Il inspira d'ailleurs le nom Cameroun parce qu'il est tombé sur place sur énormément de vautours à dos blanc appelés Camerones. Vrai ou faux ?
Fernando Po, il était donc... il était italien, il était...
Je n'ai pas cette information.
Parce que s'il était espagnol, il a pu appeler ça Camerones, mais s'il était italien, il les aurait appelés différemment. Et je trouve que Po a davantage une consonance italienne qu'espagnole. Cela
vous
dit,
confondez avec le fleuve.
Vous confondez avec la plaine du Po.
Et cela dit, ce sont quand même les Espagnols.
Fernando,
est-ce que ce sont
espagnol
les Espagnols qui ont été les premiers ? C'était les Espagnols et les Portugais qui ont été les premiers à aller dans cette zone-là. Donc c'est possible, mais je ne vois pas le Cameroun venir d'un mot. D'autre part, je ne sais pas du tout d'où vient le nom du Cameroun.
C'est un portugais, on me signale.
C'est un portugais. Oui. Ah, oui. Alors, est-ce que. Oui, alors je répondrai oui.
Vous répondez oui parce que c'est un portugais.
Oui, parce que cette consonance en S est possible et je ne sais pas du tout d'où vient le mot Cameroun. En même temps, spontanément, j'aurais dit non. Mais bon.
Ah, bah alors, quelle est votre réponse ?
Alors, mais je ne sais pas, mais il faut suivre son intuition première. Alors, je réponds, c'est faux. C'était ma première intuition.
Vous avez.
Elle est retombée sur ses pattes in extremis.
Exactement. Un retournement de situation incroyable.
Le Fernando Po a existé. Il était bien portugais. Il arrive sur la côte du Cameroun par la rivière Wouri. Il va la baptiser Rio dos Camaroes, qui signifie crevette, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de crevettes. Camaroes donnera Cameroun. Et ça, pour une fois. Je le savais. Je le signale à chaque fois que je connais une réponse du quiz. Oui. Vous aurez noté que c'est honnête de ma part parce que c'est très rare. Donc voilà, je ne bluffe pas. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Quand on travaille, parfois, et vous le savez mieux que moi, Stéphane, on peut avoir des notes de frais. Buzz Aldrin, pour son job d'aller marcher sur la Lune, a eu une note de frais et il a obtenu un remboursement. Vrai ou faux ?
Mais vrai.
Pour son voyage pour la Lune. Vrai, vous ne réfléchissez pas.
Il l'a raconté, mais bon.
Ah, donc vous connaissez cette anecdote.
Vous avez...
Vous semblez dire que c'est faux.
C'est ce qu'il racontait maintenant.
Ah, vous pensez que c'est ouais. Vous pensez qu'il a.
Mais pour quel type de dépense?
Pour monter sur la Lune, etc. Mais il était. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que je l'ai connu, il était très près de ses sous quand même. Hein.
Ah, donc c'est, ah, c'est possible.
Il se faisait payer pour tout.
Alors pourquoi, comment il pourrait avoir une note de frais pour aller sur la Lune?
Alors, on ne dépense rien sur la Lune. Il était, de toute façon, il était salarié.
Non, mais il y a des indemnités de tout.
Il a peut-être eu des primes, primes de risque, primes de...
C'est pas tout à fait ça. Ouais. Non, non, il a loué une voiture pour aller sur la base de lancement.
Ah,
33 dollars. Il a bien été remboursé en 2015. Il a publié sur Twitter la fameuse note de frais.
Ouais, vous voyez,
Stéphane, il ne mentait pas. J'ai l'impression que vous n'appréciez pas beaucoup Buzz Aldrin. Vous préférez Lance Armstrong. Ah, Buzz Aldrin, visiblement, signe.
Ah, il était comme
Buzz
Joseph
était
Bonaparte.
Porté sur la bouteille.
Ah bon, c'est-à-dire.
J'ai dit Lance Armstrong et je vous ai dit vous préférez Lance Armstrong. Vous préférez évidemment Neil Armstrong, Stéphane.
Oui, bien
il
sûr.
Il buvait moins.
Oui, parce que Lance Armstrong,
lui,
il prenait autre chose. C'était voilà. le pot belge.
Exactement, le pot belge. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Restons justement sur Buzz Aldrin. Après son voyage sur la Lune, Apollo 11 va amerrir dans le nord de l'océan Pacifique un 24 juillet 1969. Quand il fait son retour aux États-Unis, Buzz passe à la douane. On lui demande s'il a quelque chose à déclarer. Il cochera la case « oui », car il a dans ses bagages du sable et des roches venant de la Lune. Vrai ou faux ?
Oui, sans doute, oui. C'est amusant.
Vous avez gagné !
Ça aussi, je connaissais la réponse. Oui, vrai, il a également publié sur Twitter. Décidément, il se dit qu'il a besoin de publier sur Twitter pour qu'on le croie. La fameuse déclaration de douane à la ligne « Le contenu de vos bagages comporte-t-il un risque de propagation de maladie ?» Buzz a écrit « À vérifier ». Question numéro 5, puisque nous sommes à égalité, si j'ai bien compté, c'est la question de rapidité. Je vous demande de bien réfléchir et de ne pas répondre aussi vite que vous l'avez fait pendant ce quiz, car là, c'est plus technique. En 1962, James Watson reçoit le prix Nobel de médecine.
Voilà.
D'où l'expression élémentaire, mon cher Watson. Il a co-découvert la structure en double hélice de l'ADN, ce qui va permettre quelques années plus tard de décrire le génome humain. En 2014, il a vendu sa médaille pour 4,75 millions de dollars. Mais pourquoi ? Trois propositions. Parce que mécontent de son directeur de recherche, il a pu ainsi racheter le laboratoire où il travaillait. Pas con. Parce que son épouse avait divorcé et qu'elle réclamait la moitié de son patrimoine. Ou parce qu'il avait eu des propos racistes et en donnant une partie de l'argent récolté à une association, c'était une façon de se racheter.
Deux.
Oui, moi j'aurais dit deux aussi, oui.
C'est pour, réponse
pour payer son divorce. Oui.
Pour payer son divorce. Vous voyez, derrière, donc le mec, il a gagné la médaille et il est obligé de la vendre pour payer son divorce. Nouveau résultat nul. Quiz de la lose. Non. Il a été obligé de vendre sa médaille, il a essayé de se racheter parce qu'il a été mis au banc de la communauté suite à ses propos quelque peu douteux. En 2007, il déclare au Sunday Times « Même si j'aimerais croire que tous les êtres humains sont dotés d'une intelligence égale, ceux qui ont affaire à des employés noirs ne pensent pas la même chose. » Voilà des propos, effectivement, qu'il a tenté de racheter en vendant effectivement son prix Nobel. Je ne pense pas que ça ait suffi.
C'est tellement hallucinant qu'on tienne des propos pareils.
Surtout que nous sommes en 2007.
Ça me paraissait tellement peu vraisemblable.
Oui, mais ce qui est hallucinant,
moi,
c'est...
J'aimais bien l'idée qu'il rachète aussi son entreprise, c'est pas
ouais,
mal. Hein.
C'est oui, mais
tout
malheureusement,
était assez
toutes vos
séduisant,
idées étaient
à part
belles.
La vérité. Voilà,
et voilà, souvent ça. La vérité est moins séduisante. Et c'est ainsi. Et surtout, il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui dans le quiz.
Oui,
personne n'a gagné.
Souvent,
ça arrive de temps en temps, effectivement, qu'on arrive à un résultat qui soit, comme vous, nul.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, une émission que, selon l'Institut luxembourgeois SBS, Stéphane Bern Sondage, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque après-midi.
À Berlin, Paris, en Belgique, en Italie et même jusqu'en Inde, aux États-Unis.
Après, le SBS est-il fiable ? Ça se discute. En tout cas, c'est toujours une joie de passer l'après-midi avec vous, Stéphane.
Un plaisir partagé, Mathieu. Ensemble, on évoque trois figures de l'histoire qui n'auraient jamais pu se croiser, qui vivaient à des époques très différentes, mais qui partageaient un point commun. Aujourd'hui, ce point commun, c'est d'être devenu complètement cinglé. Après Charles VI, je vais vous raconter l'histoire de Séraphine de Senlis. L'histoire émouvante d'une orpheline douée pour la peinture qui va laisser une œuvre remarquable, mais qui va finir internée. Contrairement, Mathieu, à notre troisième personnage du jour, qui lui, non seulement ne va pas laisser d'œuvre remarquable, mais
méchant.
Va aussi finir internée.
Ne préjugeons pas, Stéphane, mais oui, disons que c'est mal barré pour Shia LaBeouf, la star de la saga Transformers. Jadis, souvenez-vous, valeur montante d'Hollywood, qui depuis quelques années se distingue plus par ses phrases que par ses prénoms.
prestations à l'écran. Addiction aux drogues, violence envers les femmes, attitude borderline sur les tournages. Chia a clairement les fils qui se touchent. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? J'ai enquêté sur place à Los Angeles. Non, je déconne, mais j'ai internet comme vous, quoi.
Sans oublier celui qui ricane, c'est l'un de nos chroniqueurs de talent. J'ai nommé David Castel-Lopez qui remonte aux origines d'une invention, de quelque chose d'étrange, de signifiant. Et là, en l'occurrence, des entreprises qui ont un nom.
Qui ont un nom. Ça arrive souvent pour les entreprises d'avoir un nom.
C'est mais une nouveauté.
Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui ont un nom un peu latino-grec, chelou, type, bah, bien sûr, Lactalis, Veolia, etc. Mais aussi des entreprises qui mettent juste EO à la fin de leur nom. Fortuneo, Meubleo. Nouvea.
Et pourquoi vous avez appelé les entreprises, vous leur dites pourquoi ce nom d'origine
non,
grecque?
Non, il y a des gens qui s'y connaissent.
Ce que je voudrais comprendre un jour, c'est comment vous fonctionnez.
J'observe.
Comment je vois un matin en levant
La folie a plusieurs symptômes.
Je vois le monde avec plus de pixels.
Vous collez bien la thématique du jour.
Je vous demande. Vous fonctionnez, on sait comment vous fonctionnez, Olivier.
Moi,
chaque
je
matin,
mes placards, un, je regarde ce qu'il y a
un bon café pour démarrer la journée du bon pied. D'où vient le café? À partir de quand a-t-on commencé à boire du café?
Et puis surtout, on peut l'utiliser en cuisine. Je vous donnerai une ou deux idées.
Le gâteau au café avec les petits lus.
On pourrait, par exemple. Et puis, je fais un petit rectificatif. Tout à l'heure, je disais qu'on parlait de l'effet de la caféine. Oui. J'ai regardé l'effet de la caféine. C'est une demi-heure après avoir pris le café.
Pas 6 heures.
Et ça dure 4 ou 5 heures le temps de l'éliminer. Oui.
Donc, à partir de maintenant, on arrête de boire du café à partir de ce moment de la journée.
C'est trop tard. Là.
Ça dépend à quelle heure vous vous couchez.
Ne tentons pas le diable.
9h.
Évidemment, vous connaissez mal la vie de Stéphane. Le mot de la fin, Stéphane, c'est vous qui l'aurez. Chaque jour, l'histoire d'une expression aujourd'hui à l'article de la mort.
Oui, on dit de quelqu'un qu'il est ou qu'elle est à l'article de la mort. La mort, on voit bien ce que c'est, mais pourquoi dit-on l'article? C'est l'article de la mort, c'est là.
Moi, j'ai longtemps cru que c'était l'article.
Quoi? Attendez, non, je crois qu'il y a une blague, Stéphane, j'ai pas compris.
Là, c'est un article. C'est l'article. Là, voilà.
Oh, l'article de la mort. C'est une vanne très intello, là. C'est pour ça que je n'ai pas suivi, effectivement. Effectivement. Bravo. Tout de suite, plongeons avec émotion dans la vie d'une peintre pas comme les autres. Partie de rien, elle a fini à l'asile. Non sans avoir laissé de merveilleuses toiles. Stéphane Bern nous raconte Séraphine de Senlis.
Europe 1. 16h, 18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
C'est vrai qu'avec Séraphine de Senlis, on passe aussi bien du plumeau au pinceau que du silence au délire psychotique. Née dans l'Oise en 1864, Séraphine Louis devient orpheline à l'âge de 7 ans. Petite fille mélancolique, son mutisme et son air rustique suscitent les moqueries des gens de son village. Elle ne communique qu'avec la nature lors d'escapades solitaires à travers la campagne. À l'été 1882, elle débarque au couvent des Sœurs de la Charité de la Providence, à Clermont. Sa piété, déjà bien développée, elle veut devenir sœur. Sauf que sans dot, c'est impossible. La mère supérieure lui propose de servir Dieu différemment, en étant la domestique du couvent. Séraphine aide alors aux besognes ménagères. Pendant qu'elle lave les sols, cire les parquets et fait la vaisselle, elle chante à tue-tête des cantiques à la gloire de Marie. « Votre ferveur est un peu trop vive, Séraphine. Modérez-la, lui recommande la mère supérieure, qui craint que son comportement ne fasse jaser. Chantez dans votre cœur. » Brimée, frustrée, Séraphine se tait, mais en elle quelque chose sommeille. C'est la psychose qui s'installe silencieusement. Un jour, Séraphine entend une voix qui lui conseille de quitter le couvent. C'est Saint-Michel, le puissant archange qui terrasse le serpent. Séraphine est l'élu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Après avoir quitté le couvent et repris les ménages, Séraphine s'installe dans un modeste logement rue du Puy-Tiphaine, à Senlis. Un soir, elle entend « Voilà ce que Jésus veut faire pour toi. Tu dessineras, tu peindras pour l'amour de sa mère, tu célébreras par les fleurs et les plantes sa gloire céleste, tu seras la bouquetière de Marie. » Message reçu. Séraphine se met alors au service de ce nouvel employeur, pas tout à fait comme les autres. Dans la rue, elle ramasse des planches en bois sous les jets de cailloux des enfants du village qui se moquent d'elle. C'est vrai qu'elle est bizarre, Séraphine. Tout le monde s'interroge en voyant cette robuste bonne femme arpenter les rues pavées de Senlis dans sa robe noire et un canotier toujours sur la tête. Muguet, myosotis, épis de blé, rose, c'est une explosion de fleurs qui jaillit sous les doigts de Séraphine. Elle a horreur du vide, sa peinture occupe tout l'espace de ses œuvres. À Senlis, elle troque ses premières toiles en échange de quelques denrées. Mais elle mange peu, elle se nourrit de sa peinture et des louanges à Dieu. En 1912, est-ce le hasard ou bien les anges qui placent sur sa route Wilhelm Oude, ce marchand d'art et collectionneur qui a découvert le douanier Rousseau et fait la promotion de Picasso et de Braque, cherche une femme de ménage. On lui conseille Séraphine. Parfait. Elle est discrète et travaille comme il faut, sans rechigner. Ce qu'il va découvrir, c'est qu'elle n'est pas bonne qu'aux tâches ménagères. Un jour, chez de petits bourgeois de sang lisse, j'aperçus une nature morte qui me fit une impression si extraordinaire que je restais planté devant elle, muet de saisissement, écrira Oude. « Qui a peint cette toile ? » demande-t-il, sidéré. « Séraphine ? » lui répond-on. Il la rachète aussitôt. De retour chez lui, alors qu'elle lui sert le thé, Oude demande à sa domestique si elle en a d'autres. « Bien sûr, elle peint comme elle prie, c'est-à-dire beaucoup et avec ferveur. » Fasciné, Oude se met à lui fournir des toiles et de la peinture. Séraphine est heureuse. Elle est enfin considérée. Mais le bonheur est de courte durée. La Grande Guerre éclate en Europe. Le collectionneur allemand est donc contraint de quitter la France. C'est un énorme coup dur pour Séraphine. Fruit de sa solitude et de sa souffrance, l'époque des chefs-d'œuvre commence. Pauvre voisin de la rue Putifène. En état de transe, Séraphine peint à genoux, à même le sol, en chantant des cantiques. En 1927, trois de ses œuvres sont exposées à Senlis. Un cerisier, deux ceps de vigne et un bouquet de lilas sur fond noir. Wilhelm Oude, qui est revenu en France et s'est installé à Chantilly, tombe sur l'annonce de l'exposition dans le courrier de l'Oise. Il s'empresse d'aller retrouver son ancienne domestique, achète ses trois toiles et lui annonce qu'il ne l'a jamais oubliée. Il veut retravailler avec elle. Séraphine est aux anges. Elle passe ses dimanches à Chantilly en compagnie de Oude, son amant et peintre aussi, Helmut Kohl.
Helmut
pas,
Kohl
pas l'homme politique Helmut Kohl, ah. Attention Mathieu, et sa sœur Anne-Marie. Elle se sent riche et importante, réclame des toiles de plus en plus grandes. La fierté est immense quand Oude annonce qu'il va enfin l'exposer à Paris. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Imaginaire. Un jour, Séraphine achète une robe de mariée à la couturière de Senlis. Oui, elle va se marier. Rencontrée lors d'un défilé, un charmant militaire du nom de Cyril lui aurait promis de l'épouser. Séraphine attend désespérément qu'il rentre. Mais si Cyril ne rentre pas, c'est peut-être parce qu'il n'existe sûrement pas. Le drame survient quand Oude invite Séraphine pour lui annoncer non pas une, mais deux mauvaises nouvelles. Il ne peut plus assumer ses dépenses, surtout cette maison bourgeoise de Senlis sur laquelle Séraphine a posé une option, et l'exposition parisienne est annulée. La crise de 1929 est passée par là, le marché de l'art en subit les conséquences. Pour Séraphine, c'est la douche froide. Le choc est si brutal qu'il réveille la psychose qui sommeille en elle. Le soir même, elle se couche sans manger ni boire, mais surtout pour la première fois, sans peindre. Le lendemain, le 31 janvier 1932, Séraphine rassemble ses affaires. Elle veut rejoindre la Vierge Marie, ses saints anges, Jésus, Dieu. Eux au moins ne m'abandonneront jamais, dit-elle. Dans les rues pavées de Senlis, elle dépose ses affaires sur les paliers de porte en maudissant les habitants. Elle était déjà étrange, mais la voilà complètement folle. Un gendarme vient la chercher, l'emmène à l'hôpital. Séraphine en a des choses à déclarer, comme les meurtres des habitants de Senlis, ou qu'on a tenté de l'empoisonner, ou encore qu'elle va se marier avec un ange. Après interrogatoire, le rapport de la police est formel. C'est une mystique, une persécutée et une illuminée, prétendant avoir des visions de l'au-delà. Séraphine est donc remise par l'ordre public à l'asile psychiatrique de Clermont-de-l'Oise. Personne ne rend visite à cette folle de 67 ans. Hallucinations, délires paranoïaques et mégalomaniaques, propos obscènes, la psychose s'exprime enfin. Dans le parc de l'asile, Séraphine retrouve ses amis, les arbres, à qui elle parle et qu'elle enlace. La peinture, elle, disparaît à jamais. La Seconde Guerre mondiale et l'occupation détournent l'attention portée aux aliénés, plus que jamais livrés à eux-mêmes. À quoi bon nourrir des bouches inutiles, questionne l'idéologie eugéniste qui circule en Europe. Souffrant d'un cancer du sein, Séraphine de Senlis meurt le 11 décembre 1945. Dans l'indifférence générale, elle est enterrée dans la fosse commune de l'asile de Clermont-de-l'Oise.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Séraphine de Senlis, nous sommes avec l'écrivain Alain Vercondelet, qui la connaît mieux que personne. Bonjour Alain.
Bonjour.
Oui, Alain Vercondelet, faut-il vous présenter? Vous êtes écrivain, biographe, et le mieux placé pour nous parler de Séraphine de Senlis, vous qui lui avez consacré plusieurs ouvrages. Le tout premier, c'était en 1986. Plus récemment, il y a eu aussi Séraphine, de la peinture à la folie chez Albin Michel, et L'art jusqu'à la folie aux éditions du Rocher. La vie de Séraphine de Senlis est un peu comme un texte à trous, on ne sait rien ou presque de son enfance, puis il y a ce silence absolu entre 32 et 42. Ce mystère qui l'entoure, c'est finalement ce qui rend sa vie aussi passionnante, non ?
C'est une vie qui est tellement inutile, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une vie qui n'a pas de relief. Elle a vécu toute sa vie dans cette petite chambre de bonne et elle a peint assise, couchée, parfois même couchée. Elle peignait à la lueur des bougies en chantant des cantiques. Et c'est une histoire qui est tellement minuscule qui a donné lieu à une œuvre qui est majuscule. Mmh. C'était une œuvre immense qui a été faite par une femme qui était tout à fait... perdue au fond de sa cellule et qui n'a jamais quitté finalement les cellules. C'est une femme qui, depuis l'enfance, elle a été gardienne de bêtes, de vaches, d'animaux. Elle était dans une grande ferme comme on en faisait dans l'Oise, derrière de grands murs. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, comment elle a été certainement brutalisée, maltraitée. Elle était orpheline, donc elle était vraiment... elle ne comptait pour rien. Et donc les murs de la grande ferme, les murs du couvent pendant quand même plus de 20 ans, et puis enfin les murs de l'asile psychiatrique où elle a vécu pendant 10 ans. Donc c'est toujours une vie asilaire finalement qu'elle a vécu.
Alain Vercondelet, un mot de la technique. Tout simplement de la technique. Comment elle acquiert cette technique?
Elle l'acquiert de façon tout à fait aléatoire et même de manière, je dirais, autodidacte. C'est-à-dire que elle peint sur des planchettes de bois. Elle peindra plus tard, évidemment, quand William Hude va lui fournir du matériel très sophistiqué de chez Sennelier. Mais auparavant, c'était vraiment sur des planches de bois et avec tout ce qu'elle pouvait trouver, sur quelconque support sur lequel elle pouvait peindre. Elle peignait avec de la peinture Ripolin, c'est-à-dire qu'elle allait à la droguerie de Senlis et elle allait acheter de la peinture lac rouge ou des couleurs primaires, hein, très crues, et elle peignait avec de la peinture pour laquelle on faisait on peignait des appartements ou on peignait des meubles. Donc elle a acquis cette technique qui est assez spectaculaire quand même, c'est-à-dire que c'est une peinture presque de vitrail, comme c'était de la peinture de lac, c'était très brillant, et à partir de cela, elle faisait des petits au couteau, elle dessinait des traits qui fendillaient complètement les pourtours des fleurs ou des feuilles qu'elle dessinait.
Mais personne ne lui a appris cette technique.
De vitraux.
Elle n'a pas reçu d'enseignement.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Tout cela a été fait depuis sa maison. Elle a inventé une histoire. Inventé une technique.
Et tout ça reposait sur son mysticisme, d'abord parce qu'elle a entendu des voix qui lui disaient de peindre pour glorifier la mère de Jésus, mais ensuite, c'est vrai qu'elle chantait des cantiques tout en peignant. C'est comme un acte de foi, finalement. Alors, c'est vrai que nous, on a du mal à savoir si c'est de la foi, de la folie, la spiritualité ou si elle était dérangée, enfin, on ne sait plus.
Oui, depuis le début, on peut dire que c'était une psychose hallucinatoire, très répertoriée dans les documents psychiatriques que j'ai pu consulter de son dossier, même. Et donc, elle était là depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'elle était porteuse de cette psychose. C'est pas une névrose qui a surgi parce qu'elle a eu un problème ou un truc comme ça. Non, c'était une psychose qui était une faille très profonde qu'elle avait comblée par la ferveur religieuse au couvent. Et donc, tout cela a été refoulé. Et puis, au fur et à mesure, la faille s'est rouverte et l'a submergée à un moment donné. Et où elle a, comme vous l'avez raconté, elle va, à partir en 1932, elle décide de tout quitter, de tout abandonner, et elle va prophétiser dans la rue à Senlis le petit matin. Elle va apporter tous les objets qu'elle avait pu acheter de façon compulsive, parce qu'elle avait gagné beaucoup d'argent à ce moment-là dans la peinture. Hude l'a beaucoup, elle l'a pas du tout exploité, au contraire, il l'a beaucoup aidée. Donc, elle gagnait de l'argent et elle avait acheté de l'argenterie, des choses comme ça. Et elle a tout mis devant les portes des hôtels particuliers de Senlis en menaçant les propriétaires de toutes les vanités qu'ils avaient faites et qui allaient évidemment leur porter malheur dans la vie après la mort. Et donc, on a appelé la police est venue, on l'a auscultée, on a bien considéré qu'elle était dérangée. On n'allait pas par 36 chemins comme aujourd'hui. Mmh. On l'a mise dans un asile psychiatrique où elle est restée donc pendant 10 ans totalement abandonnée à elle-même et à sa souffrance.
Et pourquoi elle s'est enfermée dans le silence à ce moment-là? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a un rideau comme ça qui est tombé à la fois sur son œuvre. Elle a arrêté de peindre, elle a arrêté de parler.
Parce que je pense que ça fait partie du processus psychiatrique. À un moment donné, toute la submersion de sa psychose était tellement grande qu'elle ne pouvait plus justement être compensée par un travail, par la peinture ou autre. Alors elle s'est livrée à autre chose pendant la durée de son internement. Elle a écrit des lettres. Elle écrivait des lettres absolument délirantes de délation de tous les gens de Senlis, particulièrement le curé de Senlis qui paraît-il avait engrossé beaucoup de religieuses, etc. C'était faux, hein, mais elle inventait des histoires et elle écrivait de façon. J'ai eu accès aux lettres. C'est assez extraordinaire parce que elle avait, comme vous l'avez dit, d'ailleurs horreur du vide et donc la peinture déborde même sur le tableau, sur le cadre. De même, les lettres débordent des marges. Elle écrivait très très bien. Elle avait appris quand même à écrire comme on faisait autrefois les pleins, les déliés avec des boucles. Et alors elle faisait comme ça des lettres qui étaient très bouclées et qui donnaient l'impression qu'ils sont presque des œuvres d'art. Même les lettres sont des œuvres d'art.
Mais au fond, on se demande toujours, et c'est la question que vous vous posez dans l'art jusqu'à la folie, sur le sens de son art. Au fond, quelle signification donner à ces arbres de vie, à ces bouquets constamment imaginés, répétés, à ces feuilles, à ces fleurs inspirées? Est-ce qu'il faut chercher le sens ou un sens à l'œuvre d'une folle?
Bien, écoutez, de toute façon, les cèpes de vigne qu'elle a dessinées, qu'elle a peint, les cerisiers, les lilas, enfin toutes les fleurs qu'elle avait pu observer, qu'elle peignait, n'étaient absolument pas naturalistes. Hein. C'était pas le peintre du dimanche qui fait exactement comme le professeur de dessin indique. Donc, elle a laissé libre et ouverte, si vous voulez, son regard, et elle les a peints comme elle les voyait dans un monde imaginaire. C'est pas de l'irréel, c'est du surréel, en quelque sorte.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alain Vercondelet. Pour tout savoir sur Séraphine de Senlis, je vous invite, chers auditeurs, à lire, comme nous vous l'avons fait pour préparer cette émission, eh bien, les livres que vous lui avez consacrés, Alain Vercondelet, notamment Séraphine de la peinture à la folie, publié chez Albin Michel. Et votre dernier livre, qui vient tout juste de paraître, Rimbaud, dernier voyage aux éditions Écriture. Merci beaucoup Alain Vercondelet d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont sombré dans la folie. Après un roi, Charles VI, une peintre, Séraphine de Senlis, vous nous brossez maintenant, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un acteur devenu fou.
Oui, mais la question serait plutôt comment ne pas devenir fou quand on est un acteur. Imaginez si votre travail quotidien consistait à faire semblant de retranscrire toute une palette d'émotions devant une équipe de techniciens souvent malodorants et totalement indifférents à votre jeu, simplement pour que des millions d'inconnus puissent plus tard juger votre performance. Imaginez maintenant que ce travail, vous le faites depuis votre plus jeune âge, du moins un âge auquel normalement personne ne nous rémunère en échange d'une prestation. Non, quand on y réfléchit un peu, il n'y a objectivement que deux métiers plus bizarres qu'acteurs, testeurs de toboggan et branleurs de dindons. Peut-être même, c'est des métiers qui existent, hein, peut-être même que dans le cas de notre personnage du jour, Chia Labeuf, il aurait été plus équilibré psychologiquement s'il avait été branleur de dindons. Il aurait fait d'ailleurs un très bon branleur de dindons, lui dont une des vidéos YouTube les plus vues est un speech de motivation lunaire où il passe son temps à hurler
« Just do it! So just do it! Just
Just do it, little dindon. Chia LaBeouf, jadis valeur sûre d'Hollywood, premier rôle de la saga Transformers, serait aux dernières nouvelles interné et sa carrière mise entre parenthèses. Mais remontons aux racines du mal. Analysons d'abord le premier trauma incontestable de cet acteur, le trauma patronymique. En effet, comment quelqu'un peut-il s'appeler Chia LaBeouf? Eh oui, Stéphane, en venant au monde en 1986 à Los Angeles et en étant le fils d'une mère juive...
et d'un père cajun. C'est comme ça que ça peut se produire qu'on s'appelle Shia LaBeouf. Alors elle est hippie, sa maman, ancienne ballerine devenue créatrice de bijoux, lui, vétéran du Vietnam, toxicomane, devenu clown et mime professionnel. Ensemble, ils ne voient donc aucun problème à appeler leur fils Shia. Tant pis s'il se rend un jour en France. L'enfance de Shia est difficile. Ses parents se disputent incessamment jusqu'à leur divorce. Son père, le clown du Vietnam, va même l'abandonner. Bon, jusque-là, rien de fou. Qui n'a jamais abandonné un enfant?
Mais t'en as déjà abandonné combien?
3.
Pas mal.
Forcément, Shia rêve d'une vie meilleure. On parlait des kilos, ouais. Oui, c'est pour ça. À 10 ans, il se lance dans le stand-up, non pas pour l'amour de l'art, il s'en fout, mais pour le train de vie que le métier d'acteur peut potentiellement lui rapporter. Faut croire qu'il est assez doué, le petit Shia, puisqu'il réussit tout seul à se trouver un agent via les pages jaunes en se faisant passer lui-même pour son propre manager.
Georges Van Bruegel, à l'appareil, je suis producteur belge.
C'est globalement comme ça que ça a dû se passer. Débordant d'énergie et ne reculant devant rien, Shia décroche ses premiers contrats, notamment dans des séries télé. Disney le repère et le signe pour une série où il tient le premier rôle durant 65 épisodes. Nous sommes au début des années 2000. Shia a seulement 14 ans et sa carrière va décoller au cinéma, d'abord dans Paranoïaque des studios DreamWorks, puis évidemment dans Transformers, le film préféré de Stéphane avec la règle du jeu de Renoir. Transformers, la franchise aux millions de dollars avec tout plein de robots qui se tapent dessus pendant 2h15. Vous savez ce qu'on dit à Hollywood, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. You gotta beat the iron as long as it's hot. Shia enchaîne donc avec Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal signé Spielberg. À cette époque, tout le monde s'accorde à dire à Hollywood que Shia est une perle. Merci de ne pas applaudir. Je vous avais prévenu, on le voit comme le nouveau Tom Hanks ou même le successeur de Tom Cruise. C'est vrai, il est jeune, il est dynamique, il joue bien et en plus, il n'est même pas encore scientologue. Hélas, si Shia n'est pas du genre à bouffer du placenta avec John Travolta, il a déjà un petit problème avec la boisson. Rien d'extraordinaire pour l'instant, il n'est pas le premier à se faire arrêter pour conduite en état d'ivresse ou pour avoir uriné dans l'ascenseur d'un hôtel. Ça arrive à tout le monde, il suffit parfois d'une tisane détox un peu trop drainante, comme Stéphane hier, il paraît que vous n'avez pas réussi à vous tenir.
Non, je le confesse.
Shia LaBeouf s'éloigne progressivement des rôles de jeune premier sauveur de l'univers pour aborder des thématiques plus adultes, plus complexes, mais aussi plus barrées. Au programme, performances artistiques saugrenues, interviews lunaires et renonciation à toute forme d'hygiène pour mieux se pénétrer d'un rôle. Son casier judiciaire, lui, commence également à s'étoffer. Abus d'alcool sur la voie publique, agression physique et verbale. En plus, il est dans le déni quand les flics l'arrêtent à 3 grammes au volant d'un de ses bolides et qu'ils lui demandent « Vous avez consommé de l'alcool ?» Shia répond
« Non, que du vin !»
Sur les tournages aussi, il devient étrange. Brad Pitt se souvient, un brin agacé. Sur le tournage de Fury, un film sur la Seconde Guerre mondiale où on incarnait des soldats conduisant un tank, ce con de LaBeouf refusait de se laver pour mieux coller au personnage. Mais à la fin, croyez-moi, c'est lui qui collait. Perfectionniste ou juste taré, Shia était même allé jusqu'à demander à un dentiste de lui arracher une dent. Et comme il faisait moyennement confiance au maquilleur du film, il avait choisi de se blesser lui-même au visage avec un couteau pour obtenir une cicatrice plus réaliste. Entre deux films, quoi de plus naturel pour lui que d'enfiler une paire de leggings violets, un débardeur vert et d'effectuer en silence 144 tours du musée d'art contemporain d'Amsterdam. Pourquoi ? Eh bien parce que, Stéphane, Shia est un artiste. Prenez-en de la graine. Ne me réapplaudissez
la
pas.
La graine de Shia.
D'autant que l'épisode du legging, vous l'avez, à Amsterdam, n'est que le début de ce que nous appellerons la spirale du n'importe quoi. Pour Shia, qui cite ensuite l'excellent court-métrage qu'il présente à Cannes, seulement quelques mois plus tard, on découvre qu'il a tout pompé sur l'œuvre d'un dessinateur. Il s'excuse par un tweet. « Mon excitation et mes naïvetés de réalisateur amateur ont fait que je me suis perdu dans le processus créatif et que j'ai négligé de demander l'accréditation appropriée. » Bah tiens, le film est retiré du web. Shia décide alors de faire sa descente aux enfers une performance. Pas en legging cette fois, mais en s'exposant lui-même dans une galerie d'art avec un sac en papier sur la tête sur lequel on pouvait lire « Je ne suis plus célèbre. I'm not famous anymore. » Les visiteurs peuvent entrer dans la pièce un par un pour interagir ou pas avec lui. Des accessoires sont à leur disposition, un bol rempli de petits papiers sur lesquels on peut lire les tweets méchants à son sujet, un fouet, rappelant celui d'Indiana Jones, un jouet Transformers et, ça lui ressemble, une bouteille de Jack Daniels. Shia ne parle pas, parfois il pleure, la performance dure 5 jours. Et en parallèle, Shia continue de tourner mais dans des films de plus en plus indépendants, voire, on va dire, underground. Le plus connu, Le Nymphomaniac de Lars von Trier, film expérimental, je ne sais pas si vous en souvenez, où tous les acteurs célèbres se font doubler pour les scènes de sexe non simulées, puisque ça c'est l'idée du film, tous, et sauf bien sûr notre Shia qui lui insiste auprès de Lars pour copuler pour de bon. Il aura même cette demande qui intriguera et choquera le réalisateur, pouvoir poser son sexe sur la caméra. En 2019, on a cru à une renaissance. Son premier long métrage, Honey Boy, est encensé par la critique. Un an plus tard, hélas, son ex-petit ami FKA Twigs, rencontré sur ce tournage, porte plainte pour agression sexuelle.
Elle est très vite soutenue par la chanteuse Sia. Alors là, il faut s'accrocher parce qu'il faut comprendre que Chia a été en couple avec Sia. Et ils se sont trouvés. Elle témoigne, elle aussi, du caractère dangereux et dérangé de l'acteur. « C'est un miracle que j'en sois sortie vivante », déclare Efki et Twigs au New York Times. Selon sa déposition, l'acteur à l'hygiène douteuse aurait même tenté de l'étouffer dans son sommeil et l'aurait consciemment contaminé d'une maladie sexuellement transmissible. Des pratiques, comment dire ?
Un peu olé-olé, hein ?
Plus que ça, Stéphane, limite illégale. Voilà, cette fois, les carottes semblent être cuites pour Chia, d'autant qu'il n'a pas que des amis à Hollywood. Il faut dire qu'il n'a jamais eu peur de dire ouvertement ce qu'il pensait de ses collègues. Comme beaucoup de stars du showbiz, Chia, en effet, a une aversion pour toutes les autres stars du showbiz. Normalement, ce genre d'hostilité ne transparaît jamais devant un micro ou une caméra. Les stars font des stages de sophrologie où bien leur psy leur conseille de se défouler chez eux devant leur miroir en mimant la mort de leurs ennemis. Stéphane fait ça tous les matins.
Yo, pam, pam, pam.
Tiens, prends ça, Carole Rousseau. Tiens, tiens, Nagui. Et ça, c'est pour toi, Yana Kamoura. Voilà. On souhaite bon rétablissement à Chia Leboeuf, qui serait donc interné de son plein gré. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Heureusement, il n'y a pas que des tarés à Hollywood. La prochaine fois, je vous parlerai d'Armie Hammer, un acteur en vogue qui, visiblement, selon son ex, a un petit souci. Il est cannibale. Ça va, personne n'est parfait. Qui n'a jamais eu de fantasme cannibale ? David ?
Non, j'ai toujours hésité. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment le regard des autres qui m'en a empêché.
Voilà, c'est souvent le regard des autres qui empêche de franchir le pas. C'est ça qui est c'est regrettable, finalement.
Merci beaucoup, Mathieu. 99% vrai. Donc, il y a 1% de faux, quand même, dans son histoire.
Oui, non, c'est uniquement vous ne déchaînez pas devant un miroir et vous n'avez pas d'ennemis, vous, Stéphane.
Oh, il y en a bien quelques-uns. Va. En cherchant bien,
on les trouvera.
Oui, comme tout le monde, vous savez, mais c'est pas très intéressant. Eh bien, merci Mathieu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est un garçon qui s'intéresse à tout. C'est sa principale qualité et peut-être la source de sa folie. David Castello-Lopez, chaque jour l'origine d'une invention ou d'un phénomène. Je relis cette fiche que vous m'avez confiée, parce que j'en ai pas cru mes yeux.
Oui.
Aujourd'hui, les entreprises avec des noms latino-grecs chelous.
Tout à fait. Alors, vous savez, pendant très longtemps quand même, les noms de marques, on pouvait les classer en gros en deux catégories principales. Soit c'était le nom de quelqu'un, généralement la personne qui avait créé l'entreprise, hein, Renault, Citroën, Suchard, Félix Potin, De Dietrich, Castello Lopez, qui est encore aujourd'hui le nom d'une chaîne de cinéma au Portugal.
Mais non.
Allez vérifier. Soit c'était des noms super descriptifs qui sentaient bon le respect et l'administration, vous voyez, genre Société Nationale des Chemins de Fer Français, Radio Classique, International Business Machines, IBM, Crédit Agricole, Banque Nationale de Paris, BNP. Mais depuis quelques années, on a vu apparaître des entreprises avec des noms latins ou grecs, Aventis, Vivendi, Navigo, ou plus souvent encore, des entreprises qui ont juste pris un mot français et qui l'auront rajouté EO à la fin. Fortuneo, Meubleo, Natureo, Criteo, Poweo, Moveo, Moneo, Manageo. Et donc, je me suis demandé, mais vas-y, c'est qui a eu cette idée chelou? Et pour le savoir, je suis allé voir un monsieur qui s'appelle Cyril Gaillard. Cyril, c'est un spécialiste des noms de marques et c'est aussi le PDG d'une entreprise qui s'appelle Bénéfique. Bénéfique écrit avec un K parce que c'est plus cool.
Avec un K parce que c'est plus cool.
Encore une création.
Avec un K parce que c'est plus cool.
Une création Castello-Lopez.
Tout à fait. Bénéfique, c'est ce qu'on appelle une agence de naming. En gros, si vous créez une entreprise ou une gamme de produits et que vous savez pas comment l'appeler, eh bien, vous donnez de l'argent à Cyril Gaillard et Cyril, il vous trouve des idées. Par exemple, Olivier, vous connaissez sans doute Diastrolib, qui est un médicament contre la diarrhée aiguë. Eh bien, c'est Cyril qui a trouvé le nom. C'est Cyril qui a trouvé le nom Diastrolib.
Diastrolib.
L'application Captain, les VTC aussi.
Ah, c'est lui.
Bon, ça existe plus, Captain, oui. Mais quand ça existait, c'était bien trouvé. Les hélicoptères H de ces Airbus hélicoptères, c'est Cyril. La montre tambour de chez Vuitton, c'est Cyril. Axe Clean, une marque de détergent développée par une société spécialisée dans le nettoyage de locaux tertiaires et industriels.
C'est Cyril
également et son équipe. Et Cyril, pour son métier, il a accès à une base de données de dépôt de marque. Et il a donc fait une petite recherche pour moi. Et selon lui, la première marque en EO de l'histoire du monde, c'est la Ford Mondeo en 1992. Et depuis, les noms latino-grecs, ça a essaimé partout. Et en particulier, ça a eu beaucoup de succès en France. Pourquoi ? Eh bien, toujours selon Cyril, c'est d'une part parce qu'en France, on se la pète un peu un télo. Donc les entreprises, elles trouvent ça souvent chic de piocher dans l'étymologie et dans les racines et le grec et le latin, tout ça, et d'avoir aussi une petite histoire à raconter autour de leur marque. Mais c'est aussi parce que les entreprises françaises sont de plus en plus internationales. Et donc c'est de plus en plus important que leur nom soit prononçable partout. Parce que je veux dire, c'est sympa d'avoir une entreprise qui s'appelle Le Crédit Lyonnais. C'est joli, il y a un côté suranné, authentique, Troisième République, terroir, vous voyez. Mais Le Crédit Lyonnais, prononcé en anglais, ça fait Le Credit Lyonnais.
Ah oui, non, ça
c'est nul.
Pas.
En japonais, Crédito Lyonnais. Pourri. En portugais, Le Crédit Lyonnais. Vous voyez,
c'est ridicule en
c'est
portugais.
Nul, c'est nul. Alors que Aventis, par exemple, ça marche super mieux. En anglais, Ventis. En japonais, Aventiso. En portugais, Ventish. Oui. Et si vous regardez, il y a plein de grandes entreprises françaises présentes à l'international qui ont changé leur nom selon ce principe. La Générale des Eaux qui est devenue Veolia, la Société Générale d'Entreprise qui est devenue Vinci. Et même si on va un peu plus loin, c'est pour ça que Alstom a enlevé le H du milieu pour devenir Alstom sans H. Mais depuis quelques années, selon Cyril, les noms latins, c'est devenu ringard. Un peu comme les pantalons en lin ou les gens qui disent chamé. La mode.
Les pantalons en lin, c'est ringard?
Ouais, ça c'est ringardisé. Brusquement, on a commencé à me dire, mais pourquoi tu mets ça? Alors qu'avant, on trouvait ça trop cool. J'ai pas compris. Ça fait un petit moment, quand même. La mode maintenant, c'est plutôt les noms anglais super courts. Et ça se voit beaucoup dans les applications qui sortent. Captain, par exemple, mais aussi Tinder, Twitch, Zoom, Lime, etc. C'est donc la fin de cette mode des noms latino-grecs.
Et vous savez combien il prend, Cyril, pour
il prend
pour trouver des...
Je crois que c'est variable, mais ça commence à 7-8 000 euros. Ouais.
Ah oui, quand même.
Merci, David. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio. Sur le site, évidemment, europe1.fr.
D'où vient le café? Depuis combien de temps en boit-on?
Cyril ne le sait pas.
Cyril n'en a aucune idée, mais pour 7 000 euros, Olivier Pouls vous le révèle dans quelques instants.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Couleur café, que j'aime ta couleur café. On parle du café, Olivier Pouls, d'où cette introduction toute en musique.
Fantastique, je vous remercie.
Olivier, depuis quand boit-on du café? Voilà une question intéressante.
Alors en France, est-ce que vous avez une petite idée? Depuis combien de temps, depuis combien de siècles on boit du café?
1872 exactement.
C'est avant, ah oui. Ce sont les conquistadors qui ont rapporté le...
C'est pas les conquistadors, non. Non, ça vient plutôt d'Italie. C'est les marchands italiens.
Marco Polo,
ça fait 4 siècles en fait qu'on en boit chez nous, mais tout a commencé en Éthiopie et non pas en Amérique du Sud, d'où non les conquistadors, mais plutôt
le Mocha du Négus.
Et oui, l'Éthiopie où le café, l'arabica, est consommé depuis la préhistoire. Et une petite légende que j'aime bien, les petites légendes culinaires, toujours assez sympa, qui raconte qu'un éleveur de chèvres avait constaté que ces chèvres allaient manger des espèces de petites baies rouges sur des petits arbres, en l'occurrence des grains de café, et que ces chèvres, elles avaient vachement de vigueur, elles dormaient pas beaucoup, elles étaient toujours très excitées. Donc il s'est dit, tiens, ça doit probablement venir de l'alimentation. D'où l'idée de la consommation de ces petites baies. Bon, ça c'est pour la légende, mais on sait que dès la préhistoire, l'homme en consommait. Alors au début, il les mâchouillait, il les mangeait, ça. Et puis est venue l'idée de le faire infuser dans des liquides et de prendre cette boisson. Alors le café va voyager avec notamment les pèlerins qui se rendent à la Mecque. Mais c'est le peuple ottoman au XVe siècle qui va le premier se lancer véritablement dans la culture du café. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le caféier d'origine primaire, donc qui vient d'Éthiopie, ben il va commencer, on va commencer à en planter ailleurs et on va louer les vertus de cette boisson. Une fois encore pour son côté énergisant et puis surtout parce que ça permettait d'avoir un moment de détente et ça nouait aussi des relations entre les gens.
Ça crée
la discussion et donc il arrive en Europe au XVIIe siècle grâce aux marchands d'épices italiens et la boisson va évidemment rencontrer tout de suite un très vif succès et on va changer petit à petit, on va le torréfier, on va améliorer les techniques également d'extraction du café et de préparation. Et savez-vous ce qui arrive en 1855 à Paris? Une invention majeure d'Édouard Loisel de Santé.
La machine d'espresso.
Et il invente exactement le premier percolateur. Va modifier totalement la manière de consommer cafés, puisqu'on ne fera plus des cafés filtres, des cafés infusés, mais il y aura ce système d'extraction avec la pression. La première démonstration a été faite à Paris en 1855. C'est une invention française.
Ah.
Et d'ailleurs, le café, savez-vous que lorsque vous prenez un espresso...
C'est très français, fun fact.
C'est très... Donc quand vous prenez un café très serré, eh bien, il contient moins de caféine qu'un café long.
Exactement.
Ah, ça, vous êtes content qu'on le dise. Vous aviez envie d'éclairer les Français.
Par exemple, les gens disent non, je vais prendre un café américain, c'est juste chaussette. Eh bien, il y a beaucoup plus de café dans un café américain que dans un espresso italien.
Parce que le temps d'infusion de l'eau au contact du café est plus long, donc il y a plus d'extraction de la caféine, et donc vous avez un café qui est plus fort en caféine. Si vous voulez moins de caféine, ben vous prenez un petit expresso, et là, il y en a beaucoup moins.
Mais dites-nous, Olivier, vous n'êtes pas censé nous donner une recette aussi tous les jours ?
Oui, alors, moi, ce que je trouve sympa, d'ailleurs, j'en ai parlé il y a quelques jours, rappelez-vous, on avait mélangé le café avec les champignons de Paris. Eh bien, il y a une autre recette que j'aime beaucoup, qui est une recette, et c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est un grand chef malheureusement disparu, qui s'appelle Marc Menot, qui mêlait café et côte de veau. C'était une côte de veau avec un jus dans lequel on rajoutait un tout petit peu de café. Alors, c'est très, très simple à faire. Vous cuisez votre côte de veau de manière traditionnelle. Au moment où vous la laissez reposer, vous allez déglacer la poêle avec un café serré, hein, un petit expresso. Vous allez rajouter un tout petit peu de fond de veau, un peu de crème, du sel, du poivre. Vous laissez légèrement réduire. Et vous avez cette sauce qui est parfumée au café, qui se marie admirablement bien avec la viande de la côte de veau.
C'est ce que j'aime bien, c'est que ces deux recettes, celles dont vous parliez avant aussi, ces deux recettes qui font leur petit effet. Quand vous servez ça, on sent que vous avez passé du temps à réfléchir quand même à une combinaison astucieuse.
On vous prend pour un génie de la cuisine alors que vous n'avez fait qu'écouter Europe 1.
Ce n'est pas la peine de dire que c'est Marc Menot qui l'a créé. Vous dites, tout ça m'est venu comme ça. Ça m'est venu devant la poêle. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes, évidemment, sur le site europe1.fr. Le mot de la fin arrive. Il est porté, comme d'habitude, par Stéphane Bern. Chaque jour, l'histoire d'une expression, Stéphane. Aujourd'hui.
Je suis à l'article de la mort.
Non, vous m'avez l'air en pleine forme, Stéphane. Rassurez-vous.
Prenez un petit café, ça va vous remonter.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il décortique pour nous chaque après-midi les expressions de la langue française. Et c'est vrai qu'on prononce souvent ces expressions sans savoir d'où elles viennent. Par exemple, être à l'article de la mort.
Pourquoi dit-on quand ça ne va pas fort qu'on est à l'article de la mort? Eh bien, ça n'a rien à voir avec l'article, le début, quoi, l'article de la mort.
On aurait pu penser ça.
Oui, ni un article de presse, ni un article dans un magasin, ni le déterminant en grammaire. Donc non, en fait, être à l'article de la mort vient de la traduction d'une expression latine, in articulo mortis, qui voulait dire au moment de mourir. On a bien compris la différence, on n'est pas sur le point de, mais on y est carrément. Au XVIe siècle, articulo vient d'articulus, qui est ici une partie du temps entre deux autres. Articulus donnera d'ailleurs articulation, la jointure entre deux os. Si on devait utiliser une expression latine pour dire vraiment à l'article de la mort, soit au dernier moment de la vie, on pourrait en utiliser une qui existe déjà et ça serait in extremis. Une formule qu'on emploie très souvent tout en ayant oublié que c'est du latin. Et puis d'ailleurs, l'extrême onction vient, c'est le moment, hein, vous voyez. À l'international, paradoxalement, beaucoup d'expressions souriantes sont utilisées pour dire à l'article de la mort. En Angleterre, on dit « to have a graveyard coat ». Comprenez, avoir une coffre. Coat cimetière.
Coffre. Je pense plutôt, Stéphane. Coffre. Oui. Je pense parce que coat, coffre. Ça veut dire que c'est un manteau.
Oui, un manteau.
Un manteau cimetière. Et ça serait intéressant aussi. Coffre.
Coffre. Comme Jean-Pierre Coffre.
To have a graveyard... to have a graveyard coat.
Comme Jean-Pierre.
A graveyard cuff, comprenez avoir une toux de cimetière. C'est en effet pas très engageant. En Australie, c'est don't buy green bananas.
C'est drôle.
N'achète pas des bananes vertes parce que la personne concernée n'aura pas le temps de les faire mûrir.
C'est génial ça. Ça, je trouve que c'est vraiment très malicieux. Ça me plaît. C'est un numéro un petit peu fou hein, d'historiquement vôtre qui s'achève, les amis. Et pour cause, on a évoqué des personnages qui un jour ont sombré dans la folie. On a choisi Charles VI, Séraphine de Senlis et Chia Labeuf. Beaucoup de messages en 39-21 pour dire c'était le moment ou jamais de faire un portrait de David Castello-Lopez.
Michel a encore dormi chez moi.
Oui. On aurait pu, mais le temps nous manque. Okay. Lequel de nos personnages fous, hormis David, vous a le plus marqué, Stéphane ?
Dans la folie, écoutez, j'étais très troublé par le destin de Séraphine de Senlis. Vous savez, j'aime les grandes mystiques.
Oui, et moi j'aime les grands peintres, donc on se retrouve là-dessus. Effectivement. À quoi doit-on s'attendre demain, Stéphane, dans Historiquement Vôtre ?
Bon, alors demain, j'ai une confession à vous faire.
Non, Stéphane, ne me dites pas que...
C'est le thème de notre prochaine émission. Oui, on réunit des confesseurs célèbres. Le confesseur du roi Louis XIV, François d'Aix de la Chaise, le père Lachaise. Et oui, c'est lui. C'est lui qui a donné son nom au cimetière. Celle qui fut la première à recueillir les confessions des auditeurs à la radio, que j'ai bien connue, Ménie Grégoire.
Vous l'appeliez, parfois. Ouais.
Ah bon?
Et le confesseur des stars, qui lui-même à force est devenu une star, Laurent Boyer.
Il sera là avec nous?
Il sera évidemment pas là avec nous, mais on parlera de lui. À demain, Stéphane.
À demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.